Je vais m'attarder juste pour finir sur les conditions idéologiques et politiques d'une pacification du monde. Vous savez, la France s'enorgueillit beaucoup, surtout ces jours-ci, de sa devise républicaine. Mais l'impasse est faite en permanence sur la fraternité. La fraternité, elle supposerait que triomphe la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination, et surtout qu'il n'y ait pas d'exclus. Or, nos sociétés fabriquent des exclus, par la politique économique et le chômage, bien sûr, mais par l'abandon de ce qu'on appelle les quartiers, notamment ceux où vivent les populations d'origine étrangère, par la répression contre les immigrés. La machine à fabriquer des exclus fonctionne. Et alors, on en vient immanquablement à la question politique, celle du lien politique. L'histoire nous apprend que la violence reste probablement inhérente à l'humanité et très difficile. Je n'aurais pas la prétention de dire voilà ce qu'il faut faire pour réduire la violence. Mais on peut tenter différentes recettes quand même. Et je crois quand même qu'on peut constater, quand on se retourne vers l'histoire, que la violence recule au sein d'un groupe humain lorsque les individus qui appartiennent à ce groupe se sentent unis par un lien politique réel. Il faut qu'ils se reconnaissent dans un « nous ». On attaque celui qui ne fait pas partie du « nous ». On n'attaque pas celui qui est dans le « nous ». Et faire partie d'un « nous », c'est former une communauté politique, c'est-à-dire un groupe qui recherche ensemble les modalités du vivre ensemble. Et alors, les violences contemporaines, dont on les observe, elles ont deux origines. Soit ce lien a été construit, mais il se délite. Ce sont les États-nations d'aujourd'hui. Et même ceux plus récents du tiers-monde, où après les luttes d'indépendance, il y a eu un lien politique assez fort au début, qui s'est délité ensuite. Et alors, on a des violences au sein de ce qu'on croyait être jusque-là une communauté unie. Soit on est dans un autre cas de figure, les communautés déjà formées tiennent, mais elles entrent en rivalité et même en hostilité violente contre d'autres communautés. Alors, pour que cela s'apaise dans les deux cas, il est nécessaire que tous les individus, quelle que soit la communauté restreinte à laquelle ils appartiennent, ou ils ont appartenu, aient aussi en même temps, et ça n'est pas incompatible, le sentiment d'appartenir à une communauté supérieure, celle que forme l'ensemble de l'humanité. C'est ce sentiment qui manque actuellement et que l'existence des Nations Unies a échoué à faire vivre. Nous sommes pris plus que jamais dans un destin commun, parce que nous courons pour une part importante de nos vies, les mêmes risques. Nous, ici, mais ceux qui sont loin, là-bas, nous courons les mêmes risques sanitaires, environnementaux, militaires, etc. Nous courons les mêmes risques, donc nous sommes condamnés à trouver ensemble des solutions ou à périr. Et n'ayant pas pris conscience de cela, les humains continuent de se déchirer et de laisser les menaces les submerger. Je pense que c'est ça l'échec le plus profond des Nations Unies. Et d'ailleurs, elles ont tellement échoué qu'elles se trouvent prises elles-mêmes dans la violence. Elle la subit et quelquefois elle l'aggrave. Rappelez-vous que bien des opérations des Nations Unies ont été l'occasion d'attentats. Le plus spectaculaire, le plus connu, est celui qui a frappé le quartier général de l'ONU à Bagdad le 19 août 2003 et qui a causé la mort du représentant spécial de l'ONU, Sergio Vieira de Mello, qui était un fonctionnaire de l'ONU tout à fait apprécié et remarquable, qui a payé de sa vie. Mais il y a eu bien d'autres attaques des Nations Unies. On en parle peu, ça fait l'objet d'une petite puce en bas d'un journal. Mais les Nations Unies ne sont pas du tout considérées, là où elles interviennent, comme étant la communauté globale qui vient apporter la paix et qui appartient à tout le monde, dans laquelle tout le monde peut se reconnaître. Pas du tout. Il y avait eu en 2000 au Timor oriental, trois fonctionnaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui avaient été assassinés à coups de machette dans leur bureau par des miliciens indonésiens qui étaient opposés à l'indépendance du Timor oriental. Donc on a là une image très forte qui montre à quel point l'ONU a échoué politiquement. Et l'échec, cet échec patent, a eu un résultat effroyable. Tout à l'heure, par un lapsus, j'ai employé le mot de vengeance, mais c'est le retour du droit de se faire justice à soi-même. Parce que l'immense différence entre une société barbare et une société civilisée, c'est que la vengeance doit reculer pour faire place à la justice. C'est-à-dire que vous avez quelque chose contre votre voisin, non, 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 vous n'allez pas aller lui casser la figure, vous allez soumettre le conflit à un juge. Et là, l'objectivité du jugement calmera les sangs un peu trop chauds et aboutira à une solution bonne ou mauvaise, souvent imparfaite, mais qui a le mérite évident d'être un substitut à la violence. Et la vengeance actuellement refait surface, et pour moi la preuve la plus éprouvante a été administrée par la capture et l'assassinat de Ben Laden sur le territoire du Pakistan par des commandos américains. Ces actes ont été commis en violation des règles les plus importantes du droit international contemporain. Je me suis demandé en regardant ça, qu'est-ce que j'avais enseigné toute ma vie ? Il y a eu violation de l'intégrité du territoire d'un État, article 2, paragraphe 4 de la Charte. Qu'est-ce que les Américains faisaient au Pakistan ? Violation du droit à la vie, article 6 du pacte international sur les droits civils et politiques. Violation de l'interdiction de tuer en dehors des combats. On n'était pas en situation de combat. C'est l'article 3 de la Convention de Genève du 12 août 1949. Violation du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue au cours d'un procès équitable. C'est l'article 14 du pacte international. Eh bien, cet acte a été commis par la première puissance du monde, alors que son gouvernement avait pris 65 ans plus tôt une part active à l'élaboration de la charte. Et cet acte a été regardé en direct par le président américain, qui s'est donné en spectacle en étant filmé en train de faire ça. Et il a été approuvé bruyamment par le peuple américain et ses alliés. Et je pense qu'il n'est pas de bon augure pour une transformation pacifiée de la société mondiale. Voilà. Pardonnez-moi de finir sur une note qui n'est pas optimiste, mais la période... Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut nous décourager dans l'action. Mais en tout cas, le travail est difficile. Merci beaucoup pour votre attention.